Merci Maëlys, à lundi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier épisode de notre voyage à la poursuite de quelques explorateurs avec cette émission consacrée à Jack London et diffusée une première fois le 20 octobre 2016. Nous la devons à Pascaline Bonnet, Laurence Millet, David Jacubo-Viez, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Jean-Guilain Meige. Lundi, nous avons exploré le centre de la Terre grâce à Jean-Luc Steinmetz qui nous a parlé de Jules Verne. Mardi, c'est Marc Poré qui nous a raconté L'île au trésor de Stevenson. Hier, vous avez pu réentendre notre émission avec Gilles Lapouge sur Nicolas Bouvier, enregistrée en 2016 au festival Étonnant Voyageur. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, deux invités. Après la chronique de Grégoire Leménager, je recevrai Jennifer Le Sieur. Elle a consacré en 2008 une biographie à Jack London et elle aura la lourde tâche de conclure cette semaine en évoquant le rapport qu'il entretenait à son travail d'écrivain. Avant cela, première partie, j'aurai le plaisir de recevoir l'homme par excellence de la littérature des grands espaces. Il a préfacé de nombreux textes de London et lui a consacré aussi un chapitre de son roman La Porte d'Or, j'ai nommé Michel Lebris. Mais pour les retardataires et ceux qui ont la mémoire courte, résumé rapide de l'œuvre de London en archive avec Francis Lacassin et Gilles Lapouge.
C'est le Kipling du froid. Mmh. C'est-à-dire
qu'il est célèbre.
Il devient très rapidement célèbre avec ses premières nouvelles dans les journaux et son livre Le Fils du Loup. Et c'est l'écrivain du Klondike qui vraiment montre des thèmes, des gens, la dureté de la vie, les gens qui sacrifient tout pour un idéal ou pour un espoir, leur rêve américain projeté dans les glaces. Et immédiatement, il a connu le succès. Alors, il a voulu passer à d'autres thèmes, bien sûr, la mer, le socialisme.
Alors, il y a la mer, le socialisme, l'aventure pure et simple.
L'aventure pure et simple. Alors, un très beau livre qui n'a pas eu beaucoup de succès en français, je le déplore, qui s'appelle Le Vagabond des étoiles, qui est son testament. Vraiment, c'est le dernier grand roman qu'il ait lu. C'est un livre contre l'univers pénitentiaire que Jack London avait connu, puisqu'il avait, il avait fait 45 jours de prison pour vagabondage.
Bonjour Michel Lebris, merci Bonjour. D'être là. Quelle vie quand même, se dit-on, en écoutant Francis Lacassin et Gilles Lapouge. Quelle vie aussi courte que chargée d'aventures que celle de Jack London.
Il disait qu'il voulait mener sa vie comme le galop furieux de 40 chevaux menés de front. Et c'est ce qu'il a fait.
40 chevaux, 40 années. Mmh. Quand on vous connaît, Michel Lebris, comme capitaine du festival Étonnant Voyageur, on se dit que ce qui vous a plu au départ chez London, qui est, je pense, un de vos écrivains préférés, vous allez nous le dire si c'est le cas, ce qui vous a le plus, c'est quoi ? C'est le goût de l'aventure ?
C'est la force extraordinaire. Moi, je l'ai lu d'abord gamin, hein, en bibliothèque verte, comme à l'état de gosse de mon époque, donc dans des versions très tronquées. Quand j'ai lu la version anglaise de The Call of the Wild, j'ai découvert qu'il y a quand même un petit problème dans ce petit livre qu'on avait appelé L'Appel de la Forêt.
Wild, c'est aussi la forêt.
C'est... Non. C'est extraordinaire ce truc, parce que je l'ai édité, j'ai fait une édition complète de ce livre aux éditions Phébus, et je proposais comme titre L'Appel de la Force. Et Jean-Pierre Six dit, la force, c'est ambigu. Je dis, mais Jack London, c'est l'ambiguïté même. The Wild, c'est cette force, cette puissance au cœur du monde, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que Jacob Boehm, qui était le maître à penser de Hegel, appelait l'être sombre dans le mystère de sa fureur. C'est quelque chose de sauvage. C'est ça, il s'agit bien de la force. Il dit, on va mettre le sauvage quand même.
Mmh. C'est pour comme vous si consoler de ça que vous avez préfacé la force d'effort, alors après.
Non, mais on a peur de ce que fut London en réalité. Il faut absolument le rentrer dans des cases. Alors en France, les cases, c'est forcément le socialiste, l'écolo, etc. Non, c'est d'abord une bête fauve qui sort d'Auckland avec une volonté furieuse de s'en tirer par tous les moyens. Il dit, s'il fallait que je me prostitue, je me prostituerais sans hésiter une seconde, mais je m'en tirerais. Il faut penser à cette fureur qu'il y a en lui, cette énergie folle. Si on ne part pas de là, on ne comprend rien. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut commencer par The Call of the Wild, comprendre qu'est-ce qu'il met en jeu là-dedans. C'est pas du tout un roman forestier. La baronne de Galar avait enlevé tout ce qui lui paraissait une philosophie un peu pesante, c'est-à-dire à peu près tout ce qui faisait le sens de ce livre. Il y a un chapitre qui s'appelle La loi du gourdin et des crocs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Alors, justement, l'appel du monde sauvage, appelons-le oui. tout de même comme ça, c'est une aventure vue par les yeux d'un chien.
Oui.
Le rapport à l'animalité, à la nature, de manière générale, chez Jack oui. London, comment vous l'envisagez ?
Il voit la nature comme une puissance brute, quelque chose qui vous traverse, vous écrase, vous broie. Et il est fasciné par la nature. Il n'est pas dans l'admiration du cuicui des petits oiseaux le matin. Hein, c'est pas ça. Et au Klondike, de toute manière, il n'a pas le temps de s'occuper de ça.
C'est le Klondike où il allait chercher de l'or.
Oui. Non, il faut comprendre. Mais c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça qu'il va être célèbre aux États-Unis. S'il avait été juste un militant socialiste, il n'aurait pas fait long feu en Amérique. C'est The Call of the Wild. Le wild, c'est une puissance obscure, disons, quelque chose au cœur du monde, qui est une puissance à la fois et indifféremment de destruction et de création, que pour survivre, on doit percevoir en soi, aussi découvrir en soi. Et la question après, c'est de savoir si cette puissance, elle vous détruit ou si vous arrivez à la maîtriser pour la rendre créatrice. Et vous voyez bien que là, il y a aussi le questionnement de l'écrivain par rapport aux forces qu'il déchaîne. C'est la bouche d'ombre de Victor Hugo. C'est la baleine de Melville, Moby Dick. C'est au cœur des ténèbres de Conrad. Toute la littérature, enfin, qui m'importe à moi, tourne autour de ce mystère premier du monde.
Et alors le fait que par deux fois, tout de même, il oui. prend comme personnage un chien, oui. Il y a une identification qui se fait aux animaux pour vous ?
Au loup. Au loup, parce que le loup, en plus, c'est puissance créatrice chez les Romains et puissance destructrice chez les Grecs. Donc c'est le télescopage des deux et il signera le loup jusqu'à la fin de sa vie. Oui, il se perçoit comme ça, c'est-à-dire comment un chien civilisé qui est enlevé, qui va connaître des tas de malheurs, etc., va finir par devenir loup et conduire la meute. Mais ceux qui veulent penser Jack London comme un gentil, je conseille vraiment de lire ce livre mm-hmm. pour voir que c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est du vertige de la destruction, c'est la palpitation de la promesse du sang des bêtes que le loup va égorger. Il dit par exemple, tel est le paradoxe de l'existence, cette extase survient quand on est le plus pleinement vivant tout en l'oubliant complètement. Elle saisit le soldat fou de guerre sur un champ dévasté et refusant de faire quartier. Elle s'empara de Buck alors qu'il conduisait la meute, poussait l'antique cri du loup et fonçait derrière la nourriture vivante qui fuyait rapidement devant lui au clair de lune. C'est un chant sauvage qui retentit. Et il faut l'entendre, sinon on ne comprend rien.
Et le fait qu'il ait un lectorat si large, est-ce que pour vous, ça signifie qu'il y a une fascination pour cette sauvagerie, une fascination aussi peut-être de ce pays-là, à cette époque-là?
Alors, on disait le Kipling du froid, c'est cet univers-là qui va... Mais il va avoir un tel succès au début parce qu'il est vraiment l'écrivain de l'époque. Il faut voir, les gays 90s, c'est l'époque des Barnum, des Rockefeller, c'est les chemins de fer qui traversent les rocheuses, c'est le football américain, c'est cette espèce de vertige de puissance, et c'est en même temps une crise économique énorme, des pauvres partout, etc. C'est l'annonce de la découverte de l'or au Klondike, c'est la décharge d'énergie absolument folle, c'est l'épopée de la Chilkoot Pass, 60 000 personnes qui arrivent, qui doivent tailler des marches dans la glace et qui vont passer 3 mois pour arriver à hisser suffisamment de vivres en haut. Il n'y a que 20 000 qui passeront. Jack London, lui, est passé juste avant la neige, donc il ira plus vite. D'ailleurs, il ne cherchera pas de l'or en réalité 3 jours. Hein. Ça a été assez rapide.
Il a cherché des histoires, en fait.
C'est-à-dire, il est descendu à Dawson City, il a traîné longtemps, il va attendre des mois avant d'enregistrer sa concession. Il ira à peine quand il rentre. De toute manière, tout son périple, ça dure il part en juillet, en août de l'année suivante, il est revenu.
Donc ça veut dire qu'il n'y croit pas finalement à cette histoire de chercher de l'or.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a $4.50 de poussière d'or avec lui quand il débarque à San Francisco. Mais il a sa tête remplie d'histoires.
C'était un puritain, alors un mélange de puritanisme et de rigueur socialiste qui a effrayé les gens d'époque. Je dois dire que ses éditeurs hésitaient à publier ses écrits socialistes. Quand par hasard il réussissait à placer un livre, on lui demandait oui, mais enlevez donc cet essai qui est un peu trop violent. Et puis oui, on va le publier juste après L'Appel de la forêt ou après Le Loup des mers. Enfin, il fallait qu'il transige avec ses éditeurs. Il n'arrivait pas à se faire éditer si facilement que ça, dès qu'il prenait la parole.
Vous êtes d'accord avec Francis Lacassin, Michel Lebris ?
Non. Non, mais ça ne m'étonne pas, disons.
Pourquoi ?
Parce que c'est faux. Ça, c'est la légende. À partir de L'Appel de la forêt, 2,5 millions d'exemplaires vendus. Bon, l'éditeur a réussi à escroquer London. Quand il a vu le succès, il a fait signer à Jack London je ne sais plus combien de... $2,000 en échange de $2,000 qui renonce à tous ses droits. Mais il devenait une mine d'or.
Oui, c'était lui l'or en fait.
Il faisait scandale. Il faisait scandale par ses prises de position, les meetings, pendant un temps assez bref qu'il a pu tenir, parce que les difficultés vont arriver très vite avec les socialistes. Mais non, il a publié à partir. Avant, ça a été terrible. La première nouvelle, avant qu'il réussisse à publier la première nouvelle sur la ruée vers l'or, parce qu'on considérait que c'était passé de mode au moment où il a 310 envois, 310 refus avant qu'une nouvelle enfin paraisse. Mais le public a réagi tout de suite, les choses se sont enchaînées très très vite et il s'est mis à écrire 5000 mots par jour où qu'il se trouve, dans n'importe quelle circonstance. C'était vraiment un ouvrier dans l'âme de ce point de vue-là. Il n'avait pas beaucoup d'imagination, donc il achetait des nouvelles.
Donc il ne se servait pas forcément d'ailleurs. Il achetait des scénarios, des synopsis, mais il ne s'en servait pas. Son imagination.
Il y a des lettres à Sinclair Lewis comme ça, où il dit merci, j'ai reçu, je ne sais plus, 10 ou 20, et je les prends toutes, $50 par.
En fait, il
histoire.
Ne pouvait écrire que ce qu'il avait vécu.
Il avait une grande difficulté à sortir de ça, et quand il prenait des nouvelles comme ça, c'était toujours en résonance avec ce qu'il avait vécu, bien sûr. Oui.
Alors Michel Lebris, avec vous, on parle quand même aujourd'hui de cette idée de la fuite, au sens propre comme au figuré, la fuite dans, pas les voyages, parce qu'on peut pas vraiment parler de voyages, mais plutôt des aventures. Et puis la fuite, c'est aussi la fuite d'un milieu social, d'un homme qui n'a pas supporté d'être né pauvre, et qui ne supportera jamais d'ailleurs d'être né dans ce milieu-là.
dans un petit essai formidable que j'ai jamais réussi à faire éditer en France, d'Eric Miles Williamson, qui s'appelle Auckland, Jack London and Me. Williamson, qui est un grand auteur américain de romans noirs, qui est né à Auckland dans le ghetto, il en parle de manière formidable parce que lui a vécu la même chose exactement. Il sort du même milieu, il se reconnaît en lui. Il dit, bien sûr, là, on n'a qu'une seule idée en tête quand on est dans un milieu comme ça, c'est s'en tirer, c'est fuir. Sauf que le ghetto est en vous, et vous, jusqu'à la fin de vos jours, vous aurez à vous battre avec le ghetto qui est en vous. Et il dit quelque chose de très juste, c'est quand on est pauvre, même quand on est riche, on reste pauvre. Quand on a été regardé comme quelqu'un de pauvre, on restera pauvre jusqu'à la fin de ses jours. Et si un jour on a faim, pas juste ce qui vous ouvre l'appétit, mais faim qui vous scie le ventre. On aura faim jusqu'à la fin de ses jours. Et même multimillionnaire, Jack London aura toujours faim. Et il y a quelque chose qu'il passera son temps à fuir. En même temps, il passera son temps aussi à comprendre le cyclone de force contradictoire en lui. Si on ne perçoit pas que c'est un cyclone de force contradictoire, on ne comprend rien à Jack London.
Oui, parce qu'à la fois, il aime les pauvres, oui. Et en même temps, il les déteste.
Il dit « je hais les pauvres », sauf que dès qu'il manifeste, j'y vais forcément, puisque j'en suis un. Et Jack London, à Londres, il parle quand même d'animaux quand il parle des pauvres sur lesquels il fait un reportage. Il est sans illusion sur eux en même temps, mais il en est un. Et c'est ça qui se débat avec ça, comme il se débat entre un désir de liberté énorme et une vision qu'il puise dans Marx, Spencer, etc., d'un univers totalement déterminé.
Et il y a une nouvelle d'ailleurs dans La Force des Forts, au sud de la Fente,
oui.
Que vous aimez, je crois, particulièrement, et oui. Qui exemplifie, si on peut dire, justement cette ambivalence avec un homme qui passe sans cesse d'un côté à l'autre d'une ligne de chemin de fer. D'un côté, c'est la bourgeoisie.
Je ne sais pas si vous voyez San Francisco, il y a Market Street, et il y a une ligne comme ça qui est de tram qui passe, et d'un côté c'est le San Francisco riche et de l'autre côté c'est le San Francisco pauvre. Et il prend un personnage qui est du côté riche, universitaire, etc., qui écrit sur les déclassés, sur etc. Et puis
un sociologue. Il s'était beaucoup intéressé à la sociologie.
Et qui passe de l'autre côté pour voir de près ce que c'est. Et puis il va se transformer à ce contact et il devient vraiment tout à fait une autre personne, quasiment l'opposé du monsieur chic de l'autre côté. Et il sent tellement qu'il est en train de basculer qu'il va finir par se marier avec une jeune femme de la bonne société, etc. Sauf que le jour où il y va, il y a une manif de ses potes du
syndicat
de la France. Et qu'est-ce qu'il va choisir de faire? C'est le sujet de la nouvelle.
San Francisco, 3 mai 1860. Chère Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe, mais il me reste bien l'autre. Oh Marie, si tu savais, j'ai creusé le roc comme ma main nue, entouré de misérables, de Polonais et aussi quelques Français. Oh Marie, nous autres les errants, les chercheurs d'or, si nous ne vivons que par elle, la montagne nous dévore. Tout est
Vous écoutez La Compagnie des Auteurs, et en l'occurrence Arthur H., sa chanson « Le chercheur d'or ». Vous savez pourquoi on l'a choisi, Michel Debris ?
Mais c'est, il m'a dit que c'était après avoir lu un de mes livres qui s'appelait La Porte d'Or, sur la ruée vers l'or, effectivement. Et dans il est venu la chanter livre, en Haïti lors d'un festival Étonnant Voyageur.
Dans ce livre, il y a un chapitre entier quasiment, hein, qui est consacré à Jack London.
Mais oui, je suis allé dans la vallée de la Lune. C'est impressionnant de voir la maison du loup. Ce qui reste, c'est la maison du loup qui ne bougera pas. Vu que,
donc c'est la maison qu'il avait fait construire à son retour de cette calamiteuse aventure du Snark.
Oui.
Quand il est parti en bateau et que ça s'est très mal passé pour lui. D'ailleurs, souvent ça se passe mal en général, les aventures de Jack London.
Une encre si lourde, disait-il, que rien ne pourra effectivement la faire bouger. Ben si, il l'avait pas assuré en plus. Et quelques jours avant d'y aménager, la maison a brûlé. Ils sont donc restés dans le bâtiment à côté dans lequel ils vivaient à ce moment-là. Mais c'est très très émouvant de voir ce qu'était sa ferme, ce qu'était le ranch et cette maison du loup, qui est une
espèce de gigantesque,
grand machin noir, sombre, hostile comme ça. C'est très impressionnant.
C'était quand même une maison de la démesure.
Ah oui, totalement, totalement folle. Le bois, ça ne pouvait être que des séquoias, puisque les séquoias vivent. C'est un bois qui ne bouge pas pendant des siècles. La roche, c'est des blocs de roches rouges sombres. Enfin, vivre dedans, je suis pas certain que ça aurait été si palpitant que. Que ça, quoi.
Alors parlons un petit peu de ce roman La Porte d'Or que vous avez écrit, Michel Lebris, qui date de 1986. Il est réédité en Point Seuil. Un roman sur les chercheurs d'or, les chasseurs de baleines, les assassins de la Barbary Coast, et dans laquelle vous reprenez donc l'histoire de Jack London. C'était une évidence pour vous que Jack London devait être dans ce roman ?
Ben, j'arrive à San Francisco avec cette histoire folle des 20, 30 000, on ne sait pas exactement, 48 arts français déportés en Californie pendant la ruée vers l'or, qui vont partir et conquérir le Sonora mexicain. Enfin, une histoire totalement folle et complètement oubliée. Et je n'ai pas fait attention, mais... J'arrive et il y a deux vallées au nord de San Francisco, la Napa Valley, il y a un grand panneau à l'entrée avec une citation de Stevenson, puisqu'il y a passé son voyage de noces avec Fanny Stevenson à Silverado, et la vallée de la Lune, parallèle, Jack London.
Donc toutes vos passions
sont... Mes deux passions réunies comme ça, voilà, donc évidemment j'ai foncé à Glen Helen, et où j'ai trouvé... Russ Kickman, qui était le plus grand érudit, le plus grand spécialiste de Jack London.
Donc c'est un libraire, c'est ça ?
Alors, il était... il travaillait dans une agence de publicité au départ. Et puis un jour, on lui dit, il ne connaissait pas du tout Jack London, il travaillait à Auckland, on lui dit, voilà, il faudrait trouver un nom, un centre commercial qu'on est en train de créer, là. Puis il dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un auteur un peu célèbre ? On dit, bon, il y a bien eu Jack London. Donc il commence à lire Jack London, c'est vraiment le cas, un type foudroyé net par ceux qui lit. Il dit, ben, on va l'appeler Jack London. Mais alors, il y a à côté, tout à côté, il existe toujours le bar The First and Last Chance Saloon, et qui est toujours peuplé de poivrons en débine. Je veux dire, c'est vraiment très, très chouette. Et à côté, il y a une cabane. Donc, je vais voir, et c'est la cabane de Jack London au Klondike. Il dit, ben, ça va être un faux. Et puis je le vois, il dit, non, c'est la vraie. Il a monté toute une expédition, négocié avec le gouvernement canadien pour acheter la vraie, la descente de là-bas, juste là, et offrir aux Canadiens, par contre, une réplique exacte. Donc, quand on va au Canada, près de Dawson City, c'est une réplique, et l'original est à Auckland, près d'un... supermarché. Il a laissé tomber tout à partir de ce moment-là pour se consacrer à Jack London. Il avait une librairie où il vendait d'ailleurs au prix auquel ils avaient acheté, y compris des éditions originales, etc. Il faisait pas acte de commerce du tout. Et j'ai passé un temps formidable. Tout le monde lui écrivait pour toutes les préfaces de Jacques Lacassin. Il était tout fier de me montrer ses boîtes et tout ce qu'il avait, les lettres de Lacassin et tous les renseignements qu'il lui envoyait à chaque bouquin pour qu'il fasse ses préfaces. Il a sorti un album, d'ailleurs, magnifique, qui est sorti, je crois, en édition française, aux éditions de l'Instant, qui est une petite merveille. C'était pas un philosophe, mais alors sur la précision, il avait des fiches jour par jour, il croisait les informations avant de les noter sur ses fiches. Il a fait un travail absolument formidable, et tous les amoureux de Jack London, tous ceux qui ont écrit sur Jack London, qui ont été en contact avec lui, lui doivent énormément, à commencer par moi.
Et vous, dans ce roman, qui est donc vraiment basé sur la réalité, puisque vous racontez la vie de Jack London à ce moment-là, puis vous racontez ce libraire, justement, que vous avez rencontré. Mais il y a quand même une question qui court durant tout le chapitre, c'est qui, au fond, est Jack London? Et c'est un peu ça que vous cherchez à explorer durant ce chapitre-là. Et votre narrateur, quand il rencontre donc le libraire, on a l'impression que là, il comprend qui est Jack London.
Oui, enfin, j'en avais une petite idée quand même avant, disons, mais non, c'est ce rapport au wilderness, ce rapport à cette force qui devient la clé qui permet après de comprendre son évolution. Et l'autre élément aussi qui devenait beaucoup plus clair, parce que quand on est devant le ranch, cette espèce de folie qui s'empare quand il rentre des mers du sud dans un état comme ça, et il est pratiquement ruiné par ce ranch phénoménal. C'était un homme d'excès, s'il mangeait du canard cru. Il le dévorait en entier, quasiment, il en mangeait deux. Enfin, c'était un homme excessif en tout. Donc, à partir du moment où il s'installe là, il faut que ce soit la plus belle ferme. Les paysans autour appelaient Peak Palace, la porcherie,
Palais
parce qu'elle
cochons.
Était ultra moderne, etc. Ils dépensaient tout ce qu'ils pouvaient là-dedans, parce que c'est évident une ruine, et comprendre son... Tout d'un coup, j'ai compris là son évolution. Et je me suis dit, mais en fait, si, c'est une éponge. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est un écrivain. C'est pas... Il y a une vision de la littérature, disons, pour parler un peu vulgairement, qui consiste à mettre de la vaseline sur le suppositoire idéologique, disons, en gros, quoi. Mais on fait toujours la leçon, on est le défenseur d'une cause, un truc, etc. Jack London, il est passionnant parce que c'est tout à fait autre chose. Il capte tout l'esprit de l'époque dans sa diversité et ses contradictions, et il se débat avec ça pour essayer, pour lui-même, pour, quand vous dites, comprendre qui il est. Mais il est mille choses en même temps, et il est complètement éclaté, déchiré entre toutes ces pulsions. Mais si on regarde en fait l'époque, quand il s'installe dans ce ranch, c'est parce que les livres qui sortent à ce moment-là sont, après la grande crise qu'a traversée la Californie, c'est de retour aux origines de la Californie, aux pionniers, c'est le retour à la nature, c'est John Muir et la création des parcs nationaux, etc. C'est tout ça qu'il absorbe, et il essaie, il se dit peut-être, là je vais trouver un répit à mes cauchemars, à tout ce chaos. Le répit, il va le trouver à Hawaï, et en lisant Jung, en fait.
Alors justement, c'est une éponge, et il absorbe également cette philosophie jungienne.
Ah ouais.
Est-ce que ça va le faire passer finalement d'un être... Bon, je brosse ça un peu à gros traits, de manière pas fine du tout, mais d'un matérialisme vers quelque chose qui est... Oui. Plus spirituel.
Ah ben, le Vagabond des Étoiles, c'est pas une dénonciation de la prison. Il écrit d'ailleurs, il doit être clair que c'est que j'écris pour le triomphe de l'esprit. Il écrit esprit en capital. C'est un sens très fort pour lui. En regardant les Hawaïens faire du surf, il est en train de lire Jung, et tout d'un coup, il fait le lien entre Jung parlant de l'inconscient, des forces de l'inconscient, du mythe et de la mise en récit de la force qui permet de la contenir dans une forme et donc de la maîtriser, de la faire créatrice. Il regarde les Hawaïens qui se dirigent où ils veulent. Cette force première du monde, c'est la vague qui déferle. Et vous pouvez apprendre à vous diriger sur cette vague. Et tout d'un coup, il dit, mais c'est ça la littérature, c'est ça, la maîtrise de cette force, la manière de la contenir dans une forme, et il rejoint exactement ce que Stevenson, de son côté, avait compris sur cette force obscure qui sera le moteur de ses œuvres aussi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci Michel Lebris, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Jennifer Le Sieur, elle sera la dernière à évoquer London dans cette série. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues avec, comme chaque jeudi, nos camarades de l'Obs, et aujourd'hui en l'occurrence, Grégoire Leménager est autour de cette table. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Alors vous avez choisi de nous parler, Grégoire, d'un chanteur qui est aussi un poète, et figurez-vous, ce n'est pas Bob Dylan.
Mais non, c'est pas Bob Dylan. Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, donc désormais, c'est officiel, c'est un grand écrivain américain.
Voilà, on peut quand même... On a envie de vous demander, même si vous n'allez pas nous parler de Bob Dylan, ce que vous pensez de ce prix Nobel.
Ah, je trouve ça très bien, parce que Jack London était peut-être une éponge, mais Bob Dylan, c'est comme on l'avait écrit dans le Nouvel Observateur il y a quelques années, et démontré, c'est Bob l'éponge. C'est-à-dire qu'il fait vraiment flèche de tout bois, de référence à Shakespeare, à Rimbaud, à la Bible, à des faits divers, à tout ça, enfin... Et il y a évidemment plus de littérature dans trois couplets de Visions of Joanna que dans la plupart des livres de la rentrée littéraire, par
donc
exemple.
Donc vous ne faites pas partie des gens qui disent
non,
que c'est
pas du tout, pas
une
du
vexation
tout, pas
pour
du
les
tout,
personnes, les écrivains qui passent
pas du tout,
toute leur vie à écrire des romans.
Mais non, et évidemment qu'on peut lire ces textes comme si c'était des poèmes. Bon, nous, on n'est pas capable de le faire parce que il y a des subtilités de la langue anglaise qu'on ne saisit pas, mais... un Américain qui lirait Brassens, il n'y arriverait pas non plus. C'est du même ordre, quoi. Voilà. Donc, Dylan, c'est très bien, mais il y en a un autre
qui aurait mérité
le Nobel, quand même. C'est Leonard Cohen, qui lui est d'abord un poète, hein, puisque quand même il a commencé par écrire de la poésie. Il faut le rappeler, dès 56. Il a été reconnu comme un poète. Il connaissait 5 accords à la guitare, donc petit à petit, il s'est mis à fredonner certains de ses textes et il les a enregistrés au milieu des années 60 avec le succès qu'on connaît. Et là, Leonard Cohen, il a 82 ans et il publie. J'ai fait un grand papier dans l'Obs cette semaine pour le saluer, pour le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté à 82 ans. Il sort un disque qui est vraiment magistral et qui est absolument bouleversant, qui s'appelle You Want It Darker, qui sonne comme une cérémonie d'adieu, et avec des arrangements remarquables. Enfin, musicalement, c'est très beau. Il a invité sur le disque la chorale qui officie dans la synagogue que son grand-père, si j'ai bien compris, qui était rabbin, avait contribué à fonder à Montréal. Donc les arrangements sont vraiment très très beaux, et puis les textes sont magnifiques, quoi. Lui, il écrivait dans Le Livre du Désir, qui est un recueil de poèmes très beau, où il dit je suis cette chose qui a besoin de chanter. Et on voit qu'à 82 ans, il a ce besoin de chanter, et besoin de chanter pour apprendre à mourir, en quelque sorte. Enfin, il se présente devant le Seigneur, il dit « Ineni, ineni, I'm ready, my Lord », et c'est vraiment, vraiment bouleversant. On a l'impression que c'est un grand monsieur qui s'en va, et c'est très rare de voir ça, et se dégage du disque une vraie forme de sérénité en même temps. Enfin, il se dépouille de tout, il est comme le monsieur Plume de Henri Michaud, quoi. Il essaye d'être vidé de l'abcès, d'être quelqu'un, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, c'est le disque d'un livre-disque, quoi, d'un très grand poète.
Également, dans les pages culture de l'Obs, vous revenez, enfin Didier Jacob en l'occurrence,
oui,
revient sur la foire de Francfort qui s'ouvre, et voilà. C'est l'occasion de faire un petit peu un palmarès, voilà, de ceux qui comptent. Alors je dis ceux qui comptent dans le monde du livre, ça peut être aussi bien des éditeurs que des écrivains. Il y a 20
voilà,
entités
absolument,
qui ont été
bien
sélectionnées par Didier Jacob.
Donc mon camarade Didier, à l'occasion de la foire internationale de Francfort, qui rassemble beaucoup de monde ces jours-ci en Allemagne, a établi le classement de ce qu'il considère être les 20 personnalités les plus influentes de l'édition mondiale. mondiale, les 20 géants du livre. Alors, il a brassé plein de critères, hein, parce qu'il y a effectivement des éditeurs chinois
qu'on
connaît pas du tout, et qui impriment des livres dans des proportions absolument colossales. Il y a aussi des écrivains qui pèsent très lourd, quelquefois de manière symbolique comme Toni Morrison, mais aussi de manière financière comme J.K. Rowling, quand même, qui explique bien comment elle a établi une espèce de machine à cash avec une marque universelle Harry Potter qui lui rapporte des milliards. Il y a aussi le patron d'Amazon.
Il y a des Français dedans.
Il y a des Français. Il y a Antoine Gallimard. Arnaud Nourry aussi, quand même. Qui est le patron d'Hachette Livre et qui règne sur 7000 salariés et détient environ 150 marques d'édition. Donc c'est quand même un gros poids lourd. Mais il y a aussi un roi du manga japonais, moi, qui me plaît beaucoup, puisqu'il a vendu donc 150 millions d'exemplaires de la série Dragon Ball, que vous connaissez par cœur, et puis de bien d'autres mangas. Mais en même temps, il publie au Japon les traductions de Proust et Le Clésio, quand même. Donc il se rachète aux yeux de la grande littérature qu'aiment les jurés du comité Nobel.
Voilà, bah écoutez, tout cela et bien plus encore à découvrir évidemment dans les colonnes de l'Obs. Merci beaucoup Grégoire Le Ménager. Dans un instant donc, nous allons retrouver Jennifer Le Sieur, mais auparavant, juste pour le plaisir, un extrait de L'Appel de la Forêt, lu par Guillaume Gallienne.
Buck s'arrêta, aspira l'air frais du matin à plein nez. Le message qu'il y capta lui fit forcer l'allure. Le sentiment qu'un malheur se produisait, s'il n'était pas déjà survenu, l'accablait. Et comme il franchissait la dernière ligne de partage des eaux pour descendre dans la vallée qui abritait le camp, il avança avec plus de précaution. 5 kilomètres plus loin, il tomba sur une piste fraîche dont l'odeur fit onduler et se hérisser les poils de sa collerette. La piste conduisait droit au camp et à John Thornton. Aussitôt, Buck accéléra son train furtif, les nerfs tendus au plus haut point. Tandis qu'il filait, glissant comme une ombre crépusculaire, son nez fut brusquement détourné, comme saisi et entraîné par une force tangible. Il suivit cette nouvelle voie jusqu'à un fourré où il découvrit Nig couché sur le flanc. Il s'était traîné là, et y était mort, le corps transpercé d'une flèche. À 100 mètres de là, Buck tomba sur l'un des chiens de traîneau que Thornton avait acheté à Dawson. Ce chien, à l'agonie, se débattait au milieu de la piste. Buck le contourna sans s'arrêter. Du camp lui parvenait la rumeur sourde de nombreuses voix qui s'élevaient et retombaient de façon monotone. Ventre au sol, il atteignit l'orée de la clairière, où il trouva Hans, visage contre terre, criblé de flèches. Puis il découvrit un spectacle qui fit se dresser son poil tout droit sur le cou et les épaules. Une bouffée de rage aveugle l'envahit. Il n'eut pas conscience de grogner, mais il poussa un grognement d'une férocité redoutable. Pour la dernière fois de sa vie, il permit à la passion de supplanter la raison et la ruse, et s'il perdit la tête, ce fut sous l'emprise du grand amour qu'il portait à John Thornton. Les Yeehats dansaient autour de la hutte en ruine lorsqu'ils entendirent un grondement effrayant et virent se ruer sur eux un animal dont ils n'avaient jamais vu le pareil. C'était Buck qui, véritable ouragan de fureur, se précipitait sur eux, emporté par un désir forcené de détruire. Il bondit sur le hyat le plus proche et lui déchira la gorge, faisant jaillir le sang comme une fontaine de la jugulaire tranchée. Il ne s'attarda pas à mettre sa victime en pièces, mais la déchira au passage, et au prochain bond ouvrit toute grande la gorge d'un autre indien. Impossible de lui résister.
Bonjour Jennifer Le Sieur.
Bonjour Mathieu.
Alors vous étiez ici pendant la première partie de cette émission, vous avez écouté Michel Lebris. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose à ce qui a été dit dans cette première partie ?
Moi quand j'entends Michel parler de Jack London, j'ai qu'une envie, c'est de relire les livres. Et pourtant je les ai tous lus, je les ai pas mal annotés pour ma biographie. Mais c'est vrai que ce sentiment de force qui sort de ces livres...
Qu'on entend bien d'ailleurs dans la lecture.
Oui, parfaitement. Oui. La force, les contradictions du personnage, la variété extraordinaire de ces sujets, le côté ancré dans son époque et en même temps intemporel, ce qui fait qu'on le lit encore aujourd'hui et qu'on lit beaucoup en ce moment, et j'en suis ravie. Ça en fait vraiment un grand écrivain américain. Il était temps qu'il entre dans la Pléiade.
C'est ça qui vous a donné envie en 2008 d'écrire cette biographie ?
C'est moins un souvenir d'enfance, parce que j'avais lu Cro-Blanc comme beaucoup d'enfants, mais je préférais Fantomette à l'époque, que un souvenir de post-adolescence, on va dire, quand j'ai lu Martin Eden. Ouais. Tout le monde me bassine avec Martin Eden, il faut absolument que tu lises ce roman, c'est extraordinaire, voilà, je l'ai lu, et... Il y a eu un avant et un après Martin Eden, comme il peut y avoir un avant et un après à La recherche du temps perdu. Je me suis dit, si c'est vraiment un roman autobiographique, ce type a eu 1000 existences. Il faut absolument que je lise une biographie de lui. Il n'y en avait pas en français. Je me suis dit, bon, pourquoi pas moi ? Alors j'ai commencé à tout lire et au fur et à mesure que je lisais, voilà, c'était l'engrenage. J'en suis plus jamais sortie.
Alors aujourd'hui, on va tâcher de conclure avec vous, très lourde tâche qui vous incombe cette série d'émissions. En essayant de résumer un peu quel était le rapport au travail de Jack London, on s'est dit que peut-être un bon moyen de le faire, ce serait de se baser sur un livre qui s'appelle Jack London, Profession écrivain. C'est un livre qui est apparu en janvier dernier aux éditions des Belles Lettres. Vous n'en êtes pas l'auteur. C'est Francis Lacassin, qu'on a beaucoup entendu dans les archives tout au long de cette semaine, qui a rassemblé un certain nombre de textes où il parle alors de diverses choses, mais où il parle notamment de son travail d'écrivain et de ce que c'est qu'être un écrivain à l'époque où lui-même est actif, et peut-être sans doute encore aujourd'hui, ça n'a pas dû changer beaucoup d'ailleurs, Jennifer Le Sieur. De quoi est-ce qu'il parle ? Quels conseils finalement ? Car on dirait presque des conseils qu'il donne comme ça de jeunes écrivains.
Oui, il n'était pas avare de conseils, même quand il était, surtout quand il a commencé à être très connu, il recevait beaucoup de courriers de jeunes auteurs ou de lecteurs qui lui demandaient des conseils pour être écrivain.
Il répondait.
Il répondait très gentiment, avec beaucoup d'humour, avec parfois un peu d'autodérision. Mais surtout, voilà, dans ce livre, qui est quand même, je précise, une réédition d'un livre qui est paru il y a quand même quelques années, en 10-18, et il résume sa philosophie de l'écriture, de l'existence, qui sont vraiment étroitement mêlées. Est-ce que je peux vous lire un petit extrait, justement, voilà, de ces principes ? Travailler. Écrivez ce mot en majuscule. Travail, travail, tout le temps. Découvrez cette terre, cet univers, cette force et cette matière, et l'esprit qui scintille à travers la force et la matière, depuis la larve jusqu'à l'esprit divin. Je saute quelques lignes, parce que là, ça lui ressemble un peu plus, je le vois bien brandir le poing en disant ça. Les trois grands principes sont bonne santé, travail et une philosophie de la vie. Je pourrais en ajouter, je dois même en ajouter un quatrième, la sincérité. Sans cette dernière, les trois précédents ne servent à rien. Avec elle, vous pouvez accéder à la grandeur et siéger parmi les géants.
Mais quel portrait ça fait de Jack London, cet homme qui, au fond, nous explique que ce qui compte pour la création littéraire, c'est la rigueur, le travail. C'est marrant parce que on n'imagine pas forcément un artiste avoir une philosophie de vie qui est basée uniquement sur le travail, encore moins, je dirais, un artiste qui est aussi un socialiste, qui cherche à faire travailler un peu moins que les autres, ses ouvriers, justement. Et lui, parfois, on a l'impression que c'est quasiment un libertarien. En fait, que pour lui, on doit s'en sortir tout seul, par soi-même. Et c'est ça, finalement, sa philosophie en tant qu'écrivain.
Bah, c'est sa philosophie parce que c'est ce qu'il a vécu. C'est un forçat de travail, c'est un autodidacte, comme vous l'avez bien montré dans les émissions cette semaine. Lui, il a appris à servir d'une pelle, d'une pioche, bien avant de savoir manier l'écriture. Donc c'est un peu ce travail de l'esprit, il se fait avec le muscle du cerveau, si je peux dire. C'est vraiment le fait qu'il soit autodidacte et qu'il ait autant travaillé pour devenir un intellectuel, montre que ça passe nécessairement par une philosophie très, très concrète. Voilà, c'était pas un poète le nez dans les étoiles, même si bon, il avait un peu le nez dans les étoiles aussi, mais ça passe vraiment par tenir la matière entre ses mains et en sortir de l'or.
Alors il parle aussi des critiques littéraires, qui évidemment l'agacent un petit peu, comment pourrait-il en être autrement ?
Oui, les critiques, bon, il a été plus ou moins bien reçu. Il s'est toujours plaint qu'on comprenait pas tellement ses livres, qu'on l'aimait pour les mauvaises raisons. Il se tenait toujours d'avoir vendu autant de livres, alors qu'il avait des messages peut-être plus subtils à faire passer. Martin Eden, par exemple, n'a pas été très bien reçu. Et il le regrettait, parce que c'est quand même un des livres dans lesquels il a mis le plus de lui-même. Mais il prenait plutôt bien les critiques et dans ce livre, Profession écrivain, on voit plusieurs lettres où il répond aux critiques.
C'est ça, il s'explique sans trop d'acrimonie finalement.
Justifie, mais alors sans jamais de rancœur et toujours voilà, avec cette pointe d'autodérision mais qui ne masque pas le fait qu'il était quand même très sûr de ce qu'il faisait.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Jennifer Le Sieur. Alors, Jack London, il n'aimait pas beaucoup les critiques. Il leur parlait quand même, hein, assez bien. Et puis, lui-même, ça lui est arrivé de faire des critiques littéraires, comme par exemple dans un article pour le Bookman en 1903. Alors là, il s'en prend aux critiques littéraires, mais il lui arrive aussi de s'intéresser à ce que font d'autres écrivains. Certains connus, certains pas célèbres du tout.
Oui, il aimait énormément Stevenson, Kipling, Conrad, comme on peut l'imaginer. Il aimait aussi un inconnu à l'époque du nom d'Upton Sinclair, voilà, qui a quand même écrit La Jungle, qui est un des grands romans du socialisme américain du début du XXe siècle. Il avait quand même des goûts assez, très éclectiques dans ses lectures. Il ne lisait pas que des romans, il lisait beaucoup de livres d'histoire, de science, il avait une culture générale phénoménale.
Et on le voit par exemple parler d'un ouvrage anonyme dû à une militante socialiste, on ne sait pas qui c'est, qui écrit The Long Day, et là Jack London est passionné par ce livre qu'il qualifie de livre vrai. C'est sans doute très important pour lui qu'il ressente que ce livre soit un livre vrai, entre guillemets.
Oui, comme il le disait, dans ses principes de vie et de travail, le plus important, c'est la sincérité. La sincérité qu'il a menée aussi bien lui-même de l'âge de, c'est ce qu'il écrit, de l'âge de 16 ans à 25 ans, à 38 ans, il était guidé par le même souci de réalisme, d'authenticité. Même quand il déforme un peu des faits réels, notamment les expériences qu'il a vécues et celles dont il a été le témoin, ça reste quand même réaliste.
Je continue sur cet article du 17 octobre 1905 dans The San Francisco Examiner sur ce livre The Long Day. Il dit « Celui qui aura lu ce compte-rendu jusqu'au bout et qui ensuite ne lira pas ce livre est un pleutre ». Alors, racontons un peu l'histoire. C'est une jeune femme abandonnée dans un monde hostile, la ville de New York, une jeune femme de 18 ans qui n'a pas d'autre alternative que de travailler ou mourir de faim. Et il dit que ce livre, c'est le tableau des conditions de vie dont les Américains n'ont pas lieu de se montrer très fiers, ajoutant « c'est un compte rendu à faire lire aux 10 000 millionnaires qui vivent à New York ». Donc, quand il regarde ce que les autres écrivains font, les autres écrivains de son époque, il a évidemment cet œil sur le message politique que les écrivains, et notamment cette jeune écrivaine anonyme, portent sur son époque.
La plupart des romans qui parlent de socialisme sont forcément chers à son cœur. Il faut là aussi que ce soit un socialisme concret, qu'il apporte des solutions, que ce soit un socialisme positif, collectif, que ce soit en littérature ou dans des écrits pour les journaux, les magazines par exemple. Pour lui, tout était mis sur le même plan.
Alors, dernier moment finalement de ce livre, on trouve pour terminer dans cette anthologie plusieurs textes sur la fameuse croisière du Snark. On n'a pas vraiment encore parlé finalement de ce moment-là de la vie de Jack London. Est-ce que vous pouvez nous replacer ce moment un peu épique quand même de sa vie dans son contexte ?
La croisière du Snark, c'était quand même le grand projet de sa vie, à lui et à sa femme, Charmian. C'est en 1906, ils ont décidé de faire construire leur propre bateau, le Snark, d'après un personnage de Lewis Carroll, et de partir en faire le tour du monde avec. Un tour du monde qui durerait 7 ans, où ils passeraient vraiment par tous les continents, par toutes les mers, un bateau qu'il piloterait lui-même, enfin avec l'aide de Roscoe Eames, qui est l'oncle de sa femme.
On se souvient qu'il a navigué beaucoup, soit dans la baie de San Francisco comme jusque dans les mers du Japon, donc il était censé savoir naviguer.
Il connaît assez bien la navigation, en revanche c'est pas vraiment un ingénieur naval, puisque le bateau qu'il fait construire était plein d'imperfections, les travaux ont duré un temps infini, ça lui a coûté une fortune. Quand il a réussi à le mettre à l'eau la première fois, il a pris l'eau, donc il a fallu beaucoup de temps.
Il faut dire qu'il ne surveillait pas beaucoup le chantier, qu'il avait délégué ça, et il n'aurait peut-être pas dû.
À des personnes pas tellement de confiance, on va dire. Mais c'était quand même une aventure extraordinaire pour nourrir, on imagine, des récits. Il avait l'intention de raconter son voyage par épisode, qu'il a vendu à plusieurs magazines, dont Cosmopolitan, qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, pour financer cette expédition qui allait lui coûter cher, dans tous les sens du terme.
Et Cosmopolitan voulait d'ailleurs que le bateau s'appelle le Cosmopolitan, mais Jack London a refusé.
Oui, c'était assez gonflé, parce que c'est quand même pas le Cosmopolitan qui finançait sa croisière. Il se contentait de lui verser quelques dollars pour ses articles.
Il a répondu, la seule objection à faire à ce nom, c'est que comme les chevaux, les bateaux devraient avoir des noms d'une seule syllabe. Je me tourne vers vous, Michel Lebris, sur cette croisière. Ça aussi, c'est un voyage. C'était un étonnant voyageur, évidemment. Jack London, et il a beaucoup souffert.
Pour le coup, au cœur des ténèbres. Parce qu'il s'enfonce, on croit, mer du Sud, gentil membre de Club Med, quoi, en gros. Et ce voyage est vraiment de plus en plus profondément dans les ténèbres, au cœur de la sauvagerie, il est malade, un côté halluciné. À bord, il a un cuisinier qui n'a jamais cuisiné de sa vie, qui est photographe, qui s'appelle Martin Johnson, auquel j'ai consacré un roman, il s'appelle La beauté du monde, justement parce qu'il va là devenir, à partir de là, il va refaire le voyage en tant que cinéaste, et il va inventer le cinéma animalier purement et simplement, avec cette idée de toute sa vie sera hantée par cette expérience avec Jack London.
Il faut dire que à part avec lui, Jack London c'était quand même assez mal entouré.
Il faisait confiance.
Il y avait de la naïveté quand même aussi.
Il y avait énormément de naïveté. En plus, cette idée qu'il se trompait jamais, quoi. Il se trompait tout le temps. Mais avec cette idée, voilà, j'ai le feeling, ça va être génial. Et puis c'était la cata, ça ne l'empêchait pas de refaire confiance après. Et ce voyage, c'est voyage de malheur en malheur. Le bateau sera vendu. Il passera 6 mois à l'hôpital à Sydney. Ça se termine comme ça. Il n'a plus un rond. Le bateau est vendu 3 000 $. Il a coûté 30 000. Et quand il rentre à San Francisco, il faut qu'il refasse de l'argent, donc il écrit à peu près n'importe quoi à ce moment-là pour vendre pour se refaire. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer à mal tourner, parce qu'en plus il est malade, il se traite à l'arsenic, à différentes...
Il en prend beaucoup trop.
Et oui, vous disiez tout à l'heure qu'il est mort dans des circonstances douteuses. Moi, j'ai regardé le rapport du médecin. Non, c'est une légende, ça. Il est mort de surconsommation médicamenteuse. Il n'a pas essayé de se suicider. C'était pas un tempérament. Il a failli se suicider autrefois quand il était jeune, quand il s'est laissé dériver ivre-mort, quand il était gosse. Mais après, non, c'est un personnage extrêmement positif et énergique. Donc,
Jennifer Lesser, juste pour terminer, du coup, votre biographie, c'était 2008. Là, vous avez relu pour nous ce Profession écrivain. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision de Jack London depuis l'apparition de votre biographie ?
Toujours autant d'affection, de tendresse pour le personnage, pour ses contradictions. Dans la vraie vie, les personnages contradictoires m'agacent un peu, mais en littérature, c'est ce que je préfère. Cette grande fierté de voir pour le centenaire... actuel, de voir autant de parutions, de nouveaux films, de nouveaux livres, l'entrée dans la Pléiade, bien sûr, mais aussi j'ai encore plus compris à quel point c'était un grand photographe, un grand témoin de son époque, ce côté éponge qui s'accompagne toujours d'empathie, l'empathie profonde. Je pense que ça reste plus que jamais un héros de notre temps et son énergie est définitivement contagieuse.
Merci à vous deux, Jennifer Le Sieur, Michel Lebris. Jennifer Le Sieur, votre biographie de Jack London est toujours disponible. C'est aux éditions Taillandier. Quant à vous, Michel Lebris, on peut signaler votre édition de Ceux de Falaisa de Robert Louis Stevenson. C'est aux éditions de La Table Ronde. Vous êtes récemment venu nous en parler. Tout de suite, c'est la poésie. Jacques Bonafé.
Bonjour. Les poèmes de Charles Dobzhinsky sont des chants, peut-être ceux d'une veillée funèbre qui alternent les images et leurs miroirs, la vivacité avec le deuil, dans le feu du ciel tiré de « Je est un juif » roman. Il se définit « J'ai vécu longtemps dans les lettres d'un alphabet qui m'était étranger. Je nageais entre les îles. Le langage était noir. » Crocs en dents de scie, il fallait l'apprivoiser, emprunter d'abord son pelage. La nuit, je descendais dans le cratère du langage, plus bas que l'eau dormante, image résiduelle du miroir. Être juif est en soi un paradigme d'excès, une extension exaspérée, un superflu de la nature. Il y a des gens qui vivent dépourvus d'origine ou devançant toute origine, leur cagoule est l'identité. D'autres ne sont que des empreintes, la procession des pas sur le chemin à inventer. En avançant, ils se créent. Interarmède, c'est un dur métier qu'être Dieu. Un Dieu n'a d'autre identité qu'intersidéral et pour profession l'entité. Quand on pense au gluant ennui d'habiter le vide ou la salle des pas trop perdus de la nuit, de ne fréquenter de fast-food que cela dépourvu d'étoiles ou voir un polar d'Hollywood, sauver Dieu de l'anorexie, fonder un restaurant du cœur au plein mi-temps des galaxies, la planète est un clown en plus par lui 100 000 fois cloné sous la défroque de Coluche. Si l'horreur se radicalise, Yahvé sur son divan Stratus poursuivra sa psychanalyse. Quel Lacan réécrira la langue d'où déplongea Dieu névrosé, lui seul rescapé du Big Bang, Or Dieu pâtit des créatures qu'afin de mieux tromper le temps, il a livré à la nature. Le cosmos athée baragouine l'évolution tout entière et sous embargo depuis Darwin. Newton aimait le jet des pommes, moins risqué que le ping-pong des noyaux lourds de l'uranium. Les humains, dit-il, m'ont déçu, tant avec eux même le temps s'avère un tunnel sans issue. Fils d'Adam et d'Ève, ils m'énervent, si démunis de mon esprit qu'ils espèrent que je les serve. Je veux bien nourrir leur mystère, mais au grand jamais, je ne serai leur domestique. Soit la croix leur sert de bouée, et il prit la contrefaçon qui sur mon corps fut tatouée. Pieux mes juifs pros ne sont guère fidèles qu'au sombre dessein d'assurer leur sort par la guerre. Je dis à ceux qui me vénèrent, ok, croyez tout votre sou et devenez tous millionnaires. Un jour vient le temps de la pause, car Dieu, quel qu'en soit l'âge légal, prend sa retraite et se repose. Dans un ashram du paradis, il est morose d'être ascète à croquer laitue et radis. Éboueur du cosmos, je passe, éclusant le rayonnement fossile qui pollue l'espace et plombe le temps, car j'obéis à ma logique qui a fait de moi le plus vert, le seul leader écologique de l'univers.
Merci Jacques Bonafé. Vous lisez cette semaine des extraits de poèmes de Charles Dobinsky. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une série consacrée à Charles Dickens.